Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Qui aujourd'hui en France ne se pose pas des questions sur l'islam, voire n'a pas de réserve? Dans ce climat de défiance, les musulmans sont souvent les premiers à en souffrir et à vouloir s'expliquer sur leurs traditions religieuses. En cette année jubilaire, à la suite du pape François, nous voulons essayer de mieux comprendre l'islam afin que cette année jubilaire chasse toute forme de fermeture et de mépris, qu'elle repousse toute forme de violence et de discrimination, selon les mots du pape. Voilà, ce matin donc une émission Vivante Église, l'islam pour les nuls. Tout au long de cette année jubilaire, nous nous sommes dit que nous allons partir, plus que jamais, peut-être à la découverte des autres traditions religieuses et spirituelles. Et pour nous parler de cela, nous sommes donc avec Hamid Demou. Vous êtes membre fondateur des Scouts musulmans de France et président de l'association internationale soufie Alaouia. Bonjour.
Bonjour.
Et le père Jean-Jacques Rouchy, plus connu de nos auditeurs, qui est donc prêtre du diocèse et délégué diocésain aux relations avec l'islam. Bonjour.
Bonjour.
Alors, commençons, je vous propose qu'on commence par le début, évidemment. Parlons de Mahomet, du Coran et peut-être et des débuts donc de l'islam. Si vous nous deviez nous présenter ou nous représenter Mahomet, nous dire qui a été ce personnage et donc quelle a été sa vie. Donc il naît en 570 à la Mecque. Et puis après, donc, il aurait eu des révélations de l'archange Gabriel. Entre-temps, qu'est-ce qu'on sait de lui, qui était cet homme, si vous deviez le présenter ? Hamid Demou.
Oui, donc comme vous venez de le dire, il est né en 570, donc fin du 6e siècle. Il est né dans un contexte qui est celui de l'Arabie de l'époque, un contexte de société tribale et clanique, avec un environnement économique et religieux qui est celui des croyances dans les idoles, et une position économique relativement bonne pour la ville et pour l'époque. C'est quelqu'un qui va grandir dans cet environnement-là et qui va progressivement être amené à cheminer vers un destin qui va être hors norme. Et ce cheminement-là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, donc c'est une société polythéiste, mais avec un résidu de croyance en un Dieu unique, puisque le Coran rappelle qu'il y a ce qu'on appelle les hunafa, c'est un mot qu'on traduit par les gens qui sont purs, mais en fait, ce sont des gens qui ont gardé cette croyance en un Dieu unique que Abraham avait laissé en dépôt avec Ismaël dans cette région, Ismaël étant l'ancêtre des Arabes et des habitants de cette région. Et Mohammed est amené à se questionner et à suivre un peu cette voie. Donc en grandissant, en étant un adulte, d'abord il va avoir une vie tout à fait ordinaire, normale. Et il va se marier à l'âge de 25 ans avec une riche mécoise.
Alors il se marie avec une femme plus âgée.
Oui, il a 25 ans.
C'était assez fréquent à l'époque de ce type de mariage.
Non, c'était pas du tout fréquent.
Qu'est-ce que ça dit de l'homme dans ces cas-là?
Ça dit de l'homme que d'abord ses qualités d'homme intègre, honnête, font que cette femme qui est riche et qui est cherche à avoir un époux s'oriente vers cette personne justement à cause de ses qualités. En fait, il a déjà travaillé pour elle dans les caravanes de commerce qui allaient vers le Moyen-Orient. Il a été amené à, et donc c'est ça qui l'amène à en fait c'est elle qui demande ce mariage peut avoir lieu et il accepte. Donc ça, c'est déjà une donnée qui est particulière. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette femme qui s'appelle Khadija va être sa femme unique jusqu'à ce qu'elle décède, donc après la révélation. Voilà. Et donc pendant cette période de sa vie, comme je viens de le dire, il a une vie assez ordinaire. Et il a pour habitude de s'isoler dans une montagne qui s'appelle Jebel Nour, la montagne de la lumière, et dans une grotte qu'on connaît aujourd'hui, qui visitait, et il faisait des retraites spirituelles, en fait, déjà, avant l'islam.
Alors, Père Jean-Jacques Rochy, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Non? Ou alors on passe directement à la révélation?
Juste un petit complément sur l'univers religieux de l'époque, effectivement. Il y avait donc les Hunafa, les monothéistes natifs. Il y avait aussi pas mal de juifs dans la région. D'ailleurs, Mohammed va en trouver à Médine 3 tribus. Il y avait aussi toute la diversité de l'écho des controverses théologiques des débuts du christianisme, des gens qui croyaient que le Christ était Dieu, qu'il n'était pas Dieu, qu'il était crucifié, qu'il n'était pas crucifié. Et tous ces débats, finalement, vont avoir un petit écho dans le Coran, ce qui montre que le prophète de l'islam avait aussi eu contact avec cette diversité religieuse qui n'était pas uniquement polythéiste, mais aussi donc toute la diversité du judaïsme et du christianisme de l'époque.
Alors, on continue, hein, parce que il faut avancer. Là, en 610, donc, les musulmans croient donc que Mahomet donc a une révélation de l'archange Gabriel, donc voilà, qui est aussi connu dans le christianisme, et que cet archange donc lui dicte le Coran, si j'ai bien compris.
Alors, c'est effectivement pendant l'une de ses retraites, telle que la tradition musulmane le rapporte, c'est pendant l'une de ses retraites spirituelles qu'il a cet événement exceptionnel qui va complètement bouleverser sa vie. Effectivement, il a une vision de l'ange Gabriel qui se présente à lui sous la forme d'un homme et qui va s'adresser à lui. Et donc, déjà, c'est un événement très, très particulier. Et la façon dont il s'adresse à lui et le contenu de ce qu'il lui dit va le bouleverser dans le sens où il s'adresse à lui avec un ordre. C'est les premières paroles qui sont révélées, en fait, on l'apprendra par la suite. L'ange Gabriel lui dit en arabe « Iqra », qui veut dire, on le traduit par « lis ».« Iqra », au nom de ton Seigneur, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'un « alaq », une adhérence. Et surtout la suite, lis au nom de ton Seigneur, Akram, le plus noble, qui a appris par le qalam, c'est ce qui permet d'écrire, qui a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc le message est très spécial dans le sens où c'est un appel à découvrir, à connaître, à la connaissance. C'est un appel à la connaissance qui est le premier message que reçoit le prophète. Donc c'est les premiers mots de la révélation sont centrés sur la connaissance et l'ordre de lire et d'apprendre. Donc ça va être vraiment quelque chose de très fort. Et à la suite de ça, donc Mohammed, qui est rentré dans cette grotte en tant que méditant, recherchant une spiritualité, en ressort avec un message et une mission.
Alors, ces apparitions vont durer combien de temps?
Alors, la révélation va durer 23 ans.
Donc, pendant 23 ans, il aurait eu donc des apparitions de l'archange?
Non, l'archange Gabriel ne va pas apparaître pendant les 23 ans. Il va recevoir, sous des formes diverses, la révélation. Il va l'entendre, et ça va imprégner sa mémoire. Il va entendre le message, et en fait, il va le répéter. Mais l'apparition de l'ange Gabriel, c'est au départ qu'il vient lui annoncer, en fait, parce que c'est une annonciation, il lui annonce qu'il va être...
Selon la tradition, le Coran descend en totalité pendant cette nuit du destin, et le même texte redescendra, selon le terme classique de la révélation, sur donc, le prophète de l'islam, jusqu'à sa mort. Pratiquement. Donc il y a deux descentes, une première d'où Mohammed va retenir simplement quelques passages, et d'ailleurs c'est sa femme à qui il va les réciter, qui va le conforter dans sa mission, être la première croyante, et le même texte est censé redescendre au fur et à mesure des circonstances de la vie, toujours par le ministère, par l'instrument sacré qu'est l'ange Gabriel, qui est censé révéler au prophète quelque chose qui est déjà écrit. Dans Al-Amal Insan Bil Kalam, c'est-à-dire il a appris l'homme, il a enseigné l'homme par le Kalam, donc il y a une écriture céleste et ce sont ces éléments d'écriture qui sont produits par Dieu directement, selon la tradition classique, qui vont descendre sur le prophète, que le prophète va retenir dans sa mémoire et qu'il va prêcher pendant toute sa vie, et ce n'est que quelques dizaines d'années après que le texte sera mis par écrit. Donc, enfin, on en parlera peut-être.
Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire aussi ce que disent les chrétiens ou ce que dit l'Église de cette révélation de Mahomet? Parce que pour des chrétiens, le dernier des prophètes est Jean-Baptiste, si je ne me trompe pas, et il n'y a
voilà.
pas
Alors,
de révélation
si vous voulez, après le Christ. Il y a un élément très simple. Le Coran, pour les musulmans, c'est le Christ, Verbe de Dieu incarné, pour les chrétiens. C'est-à-dire que le contenu de la révélation, c'est la vie, la mort, la résurrection, l'enseignement du Christ. Et l'évangile va donc être la prédication, hein, à propos du Christ. Tandis que le Coran est l'équivalent du Christ, c'est-à-dire que le livre et son contenu sont la révélation directe de Dieu. On va employer une petite expression à la Raymond DeVos. Pour le christianisme, la parole de Dieu s'est faite homme. Pour l'islam, la parole de Dieu s'est faite tome, c'est-à-dire livre. Voilà, bon. Faut pas durcir les choses.
Je vois Amit Demou qui fait un peu la moue, mais vous nous expliquerez au fur et à mesure de l'émission pourquoi. En tout cas, si on avance sur la vie de Mahomet, donc après s'ensuit une vie, on va dire, compliquée pour Mahomet, puisqu'il est chassé de la Mecque en 622, c'est ce qu'on appelle l'Hégire. Et puis après, il finit par y revenir en 630 et il meurt en 632. Alors c'est évidemment un immense résumé. À gros traits, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de la vie du prophète après cette révélation qui certainement n'a pas été sans bouleverser sa vie, ni la vie locale, on va dire.
Tout à fait. Il y a vraiment un bouleversement qui s'opère. Effectivement, comme vous venez de le dire, il y a vraiment deux périodes assez distinctes. La première qui se passe à la Mecque après cette révélation, où il va, après un certain temps, commencer à prêcher, à appeler à cette nouvelle religion, il faut la nommer comme ça. C'est un appel à l'unicité, à la croyance en l'unicité. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que tout ce qu'il amène va être une véritable révolution. Ça va complètement modifier les habitudes et les croyances et le modèle social dans lequel se trouve cette société au moment où le prophète reçoit ce message et doit le transmettre. Donc déjà l'appel à l'unicité de Dieu, qui est vraiment affirmé d'une façon très forte dans l'islam, va être un bouleversement, c'est-à-dire que toute cette croyance polythéiste, qui était en fait un élément unificateur de toutes les tribus, mais en même temps pour la Mecque, un élément très important financièrement, économiquement, et aussi par rapport à la position, par rapport aux autres tribus. Donc tout ça est remis en cause. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui l'amène aussi, c'est une forme d'égalité entre tous, notamment sur le plan spirituel, ce qui n'existait pas. Donc on voit bien que ça remet en cause beaucoup de choses, ce qui fait que la réaction notamment des notables, de ceux qui dirigent, de ceux qui ont les choses en main, va être très forte. Au départ, on y attache peu d'importance parce que on pense que ça va pas aller très loin. Mais la persévérance du prophète et l'évolution des mentalités de ceux qui le rejoignent petit à petit fait que on va commencer à s'y intéresser et en fait à réagir de manière de plus en plus violente vis-à-vis de lui et de ceux qui le suivent.
Alors,
et ça va durer 10 ans.
De plus en plus violent, donc ça veut dire ?
Ça veut dire que lui sera persécuté en tant que personne, alors que dans la société où il vit, il est protégé par le clan auquel il appartient, qui est un clan important. Mais surtout, ceux qui le suivent ne sont pas tous dans cette situation, et ça va aller jusqu'à tuer des personnes. Des personnes ont été torturées, puis tuées. Ce qui va amener le prophète à un moment donné à faire partir une grande partie de ses disciples vers l'Éthiopie, c'est-à-dire vers un roi chrétien qui va les accueillir, hein, pour les protéger. Et ça va durer pratiquement une dizaine d'années jusqu'au moment où sa vie sera mise en danger, puisque un attentat est prémédité pour le tuer. Et c'est là qu'il s'enfuit vers la Mecque dans la nuit, et ça va être l'exil, l'exil pour lui, et ce qu'on appelle l'hégire en arabe, c'est-à-dire l'émigration. Il va émigrer vers une ville qui se trouve au nord de la Mecque. C'est pas par hasard qu'il va là, c'est parce qu'il y a eu des contacts auparavant, et il a l'assurance que les habitants de cette ville vont l'accueillir et accueillir toute la communauté qui va en fait le précéder. Lui, il va les rejoindre.
Comment on connaît la vie de Mahomet? Parce que il n'en est pas fait mention en fait dans le Coran. Nous,
il y a quelques éléments.
Vous allez me corriger, hein, mais nous on a les évangiles en fait qui nous permettent de connaître la vie du Christ. Vous, qu'est-ce que vous avez en fait et qui a compilé? Est-ce que c'est les premiers disciples de Mahomet qui ont compilé la vie de Mahomet comme ça?
Il y a des chroniques qui ont été répertoriées et qui ont été ensuite rassemblées. Par une personne hein, qui a écrit le premier livre de la Sira, qui est donc la vie du prophète en quelque sorte, et on retrouve tous ces éléments. Alors certains historiens disent qu'il y a plusieurs éléments qui sont un peu enjolivés, mais l'essentiel de sa vie, les grandes dates, les grands événements sont effectivement historiques à travers cette Sira que l'on retrouve jusqu'à aujourd'hui.
Il y a tout un travail pendant les deux premiers siècles de l'islam, donc pour préciser à la fois l'écriture et le contenu du Coran, mais aussi pour collationner toutes ces traditions. Et donc pendant deux siècles, il va y avoir la composition de ce qu'on appelle donc le hadith, ou la sunna, c'est-à-dire un ensemble de souvenirs de ce que Mohammed aurait fait, aurait dit, ses prises de position, des histoires de ses premiers compagnons. Et à partir de là, ont été faits donc des recueils de traditions, et la Sira, c'est-à-dire une biographie hagiographique, présentée dans un peu comme l'Évangile, si vous voulez, d'une certaine manière, hein, pour présenter dans la vie du prophète à la fois de façon relativement historique, au sens moderne du terme, et en introduisant aussi des éléments pour montrer l'importance du personnage, sa qualité spirituelle et sa qualité prophétique. Hein. C'est un texte aussi apologétique, hein, et pas seulement un texte, simplement un reportage.
Alors, avant qu'on fasse une première pause musicale, moi, je c'est mon rôle aussi. Hein, je pense qu'il y a un certain nombre de chrétiens et autres qui s'interrogent parfois sur certains aspects de la vie de Mahomet. Alors, je citerai peut-être deux grandes choses qu'on peut entendre, non pas pour accuser, mais pour essayer de comprendre le fait que donc il était aussi un chef de guerre. Voilà, alors les chrétiens, c'est vrai que ça peut nous surprendre que ce prophète donc que vous aimez ou que vous vénérez, je ne sais pas si c'est le terme que vous utilisez, donc puis être un chef de guerre, et puis aussi la question de la polygamie, puisque semble-t-il donc ça a été plus ou moins institué par Mahomet, si je ne me trompe pas. Alors dites-moi sur les deux points ce qu'il en est.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on vient de l'évoquer, il y a cet exil, donc cette immigration vers la Mecque, vers Médine, qui va porter le nom de Médine, parce qu'on dit Madinat al-Rasoul, qui veut dire la ville du prophète, donc elle change de nom au moment où il arrive. En fait, il change complètement de statut aussi. De personnes persécutées portant un message spirituel pendant 10 ans, le message est essentiellement spirituel à la Mecque. On retrouve énormément de contenu spirituel et essentiellement ça. Ce message va changer parce qu'il va se trouver dans un contexte où il va être un chef spirituel mais aussi temporel, ce qui n'était pas avant. Le fait de devenir chef temporel, ce qui est une obligation pour lui, hein, c'est pas lui qui le choisit, va l'amener, eh bien, à prendre des décisions qui sont du l'ordre du temporel et non plus du l'ordre du spirituel. Et les demandes qui vont arriver de la part de des habitants et des musulmans et des non-musulmans vont l'amener à être impliqué dans le temporel. Parmi ces implications, c'est notamment la défense de la ville. C'est les relations qu'il avait avec les Mécois qui sont des relations très très conflictuelles, puisqu'il a été persécuté sans qu'il n'ait jamais réagi pendant 10 ans. Donc de persécuté, il passe à un statut de responsable spirituel et temporel. Et donc cette position va l'amener à être en mesure de se défendre vis-à-vis des Mécois qui l'ont persécuté. Et la première bataille qui va avoir lieu, effectivement, va opposer les Mécois au prophète, avec ses disciples. Donc c'est cette attitude-là qu'il prend, parce que justement, il est amené à avoir une action temporelle.
Père Jean-Jacques Roussy, sur cette question donc de la violence, qu'est-ce que vous dites ?
Je pense que c'est très important de tenir compte du contexte, effectivement. Mohamed, qui est d'abord l'initiateur d'un mouvement spirituel, mais ce mouvement spirituel, comme M. Desmaux vient de le dire, va bouleverser les données économiques et financières de la civilisation dans laquelle il se trouve. Et donc, il va y avoir une hostilité de plus en plus marquée. Et finalement, son retrait à Médine va être aussi la fondation d'un État avec la défense de cet État et la nécessité de vivre, dont il n'y a pas tellement d'agriculture, enfin où ça ne suffit pas. Et pour survivre, il va donc interrompre la caravane qui vient depuis Palmyre et qui va jusqu'à la Mecque, et évidemment cela va compromettre beaucoup la vie économique de la Mecque, et donc il va y avoir des batailles. Et pendant ces batailles, il va y avoir aussi, si l'on peut dire, la découverte d'ennemis de l'intérieur, où dans la ville de Médine, il y a un certain nombre de tribus juives, en particulier trois, dont une qui va être en quelque sorte une cinquième colonne à l'intérieur de l'État islamique naissant, et dont le prophète de l'islam, une fois la bataille terminée, va être obligé de régler la question de cette tribu. Et là, effectivement, il va réagir avec une violence relativement contrôlée, d'ailleurs, mais il va y avoir des exécutions, dont il semble d'ailleurs que ce soit un juif qui ait appliqué la Torah dans ce cas-là. Voilà, donc effectivement, le contexte va amener de la part du prophète de l'islam, chef d'État, chef de guerre, un certain nombre de décisions violentes qui vont par la suite alors être sollicitées par les islamistes modernes pour justifier leur propre violence, mais sans tenir compte du contexte. Mohamed est un homme du 7e siècle de notre ère, qui a sa spiritualité, qui va donc gérer une violence qui lui est un peu imposée, et qui va réagir avec sa culture, mais de façon plutôt, avec plutôt de la mansuétude par rapport aux mœurs de son temps.
Alors, Hamid Demou.
Oui, je voulais juste peut-être rajouter, avoir une réaction par rapport à cet aspect. Effectivement, il y a cet événement dont vous parlez, hein, Père Roussy, où le prophète est amené à appliquer la loi de l'époque par rapport justement à ceux qui ont trahi, en fait, un pacte qui avait été signé à l'arrivée du prophète. Quand le prophète arrive à Médine, Il signe avec tous les habitants, ou tous les représentants des habitants, les différentes communautés, parce qu'il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des non-croyants et des polythéistes qui habitaient là. Et il y avait ceux qui avaient rejoint le prophète. Donc il fait ce pacte qui s'appelle Sahifat, le pacte de Médine en gros, dans lequel on se rend compte que toutes les tribus sont nommées, et dans lequel il est dit que chaque élément de cette communauté a droit à la protection du prophète et de tous ceux qui font cette communauté. Et cette communauté s'appelle comment ? Elle s'appelle la Oumma de Mohammed. Donc cette Oumma de Mohammed, la première, est constituée plurielle, aussi bien de musulmans, elle était plurielle.
Alors on va faire une première pause musicale parce que le temps passe et on avancera et puis vous répondrez sur cette question de la polygamie après cette pause.
Thank you. présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission Vivante Église ce matin, donc intitulée L'Islam pour les nuls, avec Hamid Demou, donc vous êtes membre fondateur des Scouts musulmans de France et président de l'Association internationale soufie Alaouia, et le père Jean-Jacques Rochy, qui est donc prêtre du diocèse et délégué diocésain en relation avec l'islam. Alors, avant qu'on voit quel est le contenu exact de votre foi, évidemment à gros traits, il faudra faire d'autres émissions par d'autres biais. Sur cette question de la polygamie, qu'est-ce que vous nous diriez ? En tout cas, c'est ce qu'on a souvent en tête ou parfois ce qu'on a lu, que Mahomet aurait, on va dire, institué la polygamie.
Alors, ça c'est une contre-vérité, hein, c'est clair, puisqu'on sait très bien que la polygamie était pratiquée avant l'islam.
Enfin, c'est-à-dire qu'il l'aurait autorisé, pardon. Et
alors, ça, c'est, il faut dire le contexte. Hein, il faut toujours ramener le contexte. Donc, la polygamie existe. Elle est tout à fait courante et habituelle dans la société. Donc, quand on prend la société, voilà. C'est comme aujourd'hui, le mariage homosexuel fait partie de la société. Voilà. On reviendrait en arrière, ça paraîtrait une chose tout à fait impensable. Mais aujourd'hui, elle existe. Donc, à l'époque, il existait la polygamie. Ça faisait partie de la société, c'était normal. Ce qui va se passer, c'est que le prophète Mohammed, à travers le Coran, c'est-à-dire c'est une révélation, hein, va limiter la pratique. Donc c'est une tendance qui est donnée, puisque la polygamie existe, elle est sans contrôle, sans règle. Le Coran va limiter.
Donc il limite à quoi ?
Il limite le nombre à 4. Mais il faut lire le Coran. C'est-à-dire qu'il y a des conditions pour que la polygamie soit possible. C'est-à-dire, il l'interdit pas parce que il y a des habitudes qui sont présentes et c'est pas facile de changer totalement les coutumes. Par contre, on va aller vers une réduction, donc une limitation, donc une orientation vers une polygamie qui serait, et on va le voir avec le texte coranique qui dit par la suite. Vous pouvez épouser jusqu'à 4 femmes, à condition que vous soyez équitable envers elles en toute chose. En toute chose. Ce que l'on doit à l'une, on le fait à l'autre, et ainsi de suite. Et le Coran termine, enfin, c'est Dieu qui parle, hein, si vous en êtes capable. Et il dit, quelque part, vous n'en serez pas capable. Le mieux, ce serait d'en épouser qu'une. Donc, si avec ça, on ne comprend pas que la polygamie, en fait, n'est pas une bonne chose et qu'il faut se limiter à la monogamie, donc voilà ce que le prophète amène. Il n'amène pas la polygamie, c'est le contraire. Il amène des règles.
J'ai pas dit qu'il a amené la polygamie. Hein,
oui, qu'il a réinstitué à travers.
Donc, il trouve la polygamie.
Il trouve la polygamie.
Il aménage.
Et il aménage. Si on comprend en tout cas l'orientation vers une disparition, et c'est ce qu'on constate, hein, si vous allez dans les pays, notamment du Maghreb que je connais, la polygamie n'est absolument pas répandue. Dans mon entourage, moi, je n'en ai pas connu. C'est par nécessité, hein. La polygamie peut être utilisée effectivement dans des cas de nécessité où elle répond à un problème social d'une façon qui est acceptable par la société. Donc dans ce cas-là, elle existe. Bon, ça effectivement, on le connaît. Mais après, le reste, c'est les comportements humains qui, effectivement...
Au temps de Bourguiba, d'ailleurs, la polygamie a été interdite en Tunisie en s'appuyant sur les fragments du Coran que M. Demou vient de citer. Oui. Alors, effectivement, on trouve aussi des tant que Mohamed a été à Médine, il a été monogame. Tant que Khadija, sa première épouse, a vécu, il a été monogame. Mmh. C'est après, une fois qu'il devient chef de guerre, qu'il constate qu'il y a beaucoup de veuves. Et donc, il n'y a pas de sécurité sociale, et donc il va donner l'exemple à ses compagnons en épousant des veuves. Lorsqu'il va penser que les juifs vont écouter sa prédication, il va épouser une juive. Lorsqu'il pense que les chrétiens vont écouter sa prédication, il va épouser une copte, Marie l'égyptienne. Lorsqu'une tribu se convertit à l'islam, il va épouser la fille du chef pour renforcer les alliances. Donc, c'est aussi une polygamie, si vous voulez, interreligieuse et diplomatique. comme elle était pratiquée d'ailleurs par tous les chefs d'État. Bon, Salomon avait, paraît-il, 300 femmes et 700 concubines. Bon, c'est une donnée aussi, si vous voulez, de prestige, d'une certaine manière. Donc, voilà. Alors, il est évident que Mohammed appréciait la beauté féminine, mais il y a tout un tas aussi de considérations diplomatiques, interreligieuses et sociales dans la polygamie, effectivement, qu'il a limité en donnant, d'ailleurs, ça a été, ça on ne le sait pas trop, les femmes n'avaient aucun droit. Et elles vont parvenir à avoir, si on peut quantifier ainsi, la moitié des droits d'un homme, parce qu'elles n'ont pas les mêmes devoirs. Donc il y a une sorte de promotion féminine par rapport donc à la jahiliya, à la civilisation que Mohammed va trouver sur place, qui sera plutôt un progrès au point de vue anthropologique.
Alors, la foi des musulmans, donc là, pour le coup, je pense que on connaît, enfin, on en a tous entendu parler, donc il y a cinq piliers, cinq grands devoirs dans la foi, ou cinq grands traits de la foi musulmane. Alors, je les cite, et puis vous allez nous expliquer. Donc, la foi en un Dieu unique, l'accomplissement de la prière quotidienne, cinq fois par jour, l'aumône envers les plus nécessiteux, le respect du jeûne lors du mois du Ramadan, et le pèlerinage à la Mecque. Alors, qu'est-ce que disent ces cinq piliers, en fait, de la foi musulmane?
Alors, ces cinq piliers, donc c'est ce qui voilà, c'est ce qui représente le dogme de l'islam. Et effectivement, on commence par la foi en un Dieu unique. C'est vraiment le socle de la foi des musulmans, qui est vraiment résumé dans ce qu'on appelle, on traduit, l'attestation de foi, shahada, ou bien shahadatayn, dans lequel il est affirmé il n'y a de Dieu que Dieu. Donc en fait, j'atteste ou je témoigne que il n'y a de Dieu que Dieu. Donc là, c'est l'affirmation de l'unicité absolue, puisque donc il n'y a pas de Dieu. En fait, si on le traduit exactement, on dit il n'y a pas de Dieu, donc la négation absolue, si ce n'est Dieu. Et la deuxième partie est que Mohammed est son envoyé. Donc c'est à partir de là que on rentre dans l'islam, hein, donc en affirmant cette unicité divine qui va être en fait le fil conducteur de toute la vie spirituelle. C'est vraiment la croyance en un Dieu unique qui est manifestée à travers tous les actes de la vie spirituelle. C'est vraiment cette orientation là, hein, d'un Dieu unique, et que Mohammed est celui qui a porté le message. Message spirituel, évidemment, c'est l'essentiel, hein, de la mission de Mohammed. C'est ce message spirituel qu'il a amené.
Alors, les quatre autres piliers.
Alors, les quatre autres piliers, donc ensuite.
En dehors du détail, le sens que ça.
La prière qui est cinq fois quotidienne, c'est le moyen par excellence de relation à Dieu. Ce qu'il faut se comprendre, c'est que le musulman est amené à pratiquer une prière rituelle. C'est cinq fois par jour, c'est une prière rituelle qui peut être faite en groupe, hein, ou de manière individuelle. Et à chaque fois, à chaque prière, tout est mis en place pour qu'il y ait cette relation à Dieu. Donc le moyen est là à chacun de faire en lui-même le travail qui va l'amener à faire cette prière dans la présence divine, dans cette présence de Dieu qui est le but de la prière. C'est le mot en arabe salat, trouve la racine de sila qui veut dire relation. Donc c'est vraiment cette relation à Dieu qui va être le cœur, le sens de cette prière qui est donc cinq fois quotidienne.
C'est là que la shahada, donc c'est-à-dire il n'y a que Dieu qui soit Dieu, c'est-à-dire que les dieux du polythéisme ne sont pas des dieux, mais l'argent n'est pas Dieu, l'État n'est pas Dieu, il y a un profond message spirituel, et donc qui établit une relation avec Dieu. Et là, on retrouve quand même un petit peu la veine du Dieu biblique, par quelque canal que ce soit. Et effectivement, la prière va incarné, c'est ce qui est, enfin, à mon sens, le meilleur de l'islam en tant que spiritualité, c'est-à-dire cette relation, 5 fois par jour, entre l'homme et son créateur. C'est un peu comme la liturgie des heures, si vous voulez, et qui est proposée à tous. Voilà, donc ça, à mon avis, c'est vraiment la valeur première hein, du monothéisme islamique en tant qu'établissant une relation spirituelle entre l'homme et son créateur, et la femme, bien sûr. La notion communautaire qui est très forte, surtout pour le vendredi, avec la khutbah, avec une prédication, un peu comme la messe du dimanche, où l'aspect communautaire, alors, est très marqué.
Alors sur les trois derniers points, l'aumône, le jeûne lors du Ramadan et le pèlerinage.
Alors la zakat qui est traduit par l'aumône légale, mais en fait zakat, le mot vient de zakat qui veut dire une purification. Donc en fait c'est un moyen qui est donné aux musulmans, aux croyants, de se purifier par le fait d'aider son prochain. Et donc la zakat, c'est une obligation de donner à ceux qui en ont besoin, nécessiteux, une part de ce que l'on a en tant que bien, mais qui ne soit pas un bien indispensable à sa vie. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être partagé sans que cela nuise à celui qui va donner. Voilà, mais c'est une sorte d'impôt légal qui est amené à rééquilibrer un petit peu les richesses dans la société, parce que il n'y a pas une égalité dans la richesse. Ça, elle n'est pas imposée, c'est comme ça, les sociétés sont comme ça. Par contre, il y a une sorte de rééquilibrage qui peut être fait à travers cette obligation qui est la zakat, donc le monde légal. Voilà. Ensuite, donc, il y a le jeûne du mois de Ramadan, donc c'est tout un mois, c'est un mois lunaire. Donc l'année musulmane est une année lunaire, et donc c'est un mois qui pendant lequel le musulman est appelé à faire le jeûne. Le jeûne a un sens spirituel. C'est un mois dans lequel les musulmans redoublent de pratiques spirituelles. C'est un mois qui est privilégié. C'est le mois durant lequel la première révélation a eu lieu, donc la descente, parce qu'on dit qu'il y a la descente, la révélation c'est aussi une descente du Coran, c'est pendant ce mois qu'elle a eu lieu, donc c'est un mois qui est privilégié, et durant lequel donc on est appelé à jeûner avant le lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Donc un jeûne purificateur et un jeûne spirituel, et aussi un jeûne physique, puisque effectivement on ne mange pas, on ne boit pas pendant toute la journée.
Et puis donc
le pèlerinage
qui doit avoir lieu quoi, une fois dans sa vie.
Une fois dans sa vie pour faire la visite des lieux saints qui sont la Mecque et Médine, avec un rituel de pèlerinage qui est très 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 bien ordonné pendant la période du Hajj, donc du pèlerinage. Et ce pèlerinage se fait sous certaines conditions qui sont que il faut pas s'endetter, par exemple, pour partir, il faut être en bonne santé. Voilà, il y a certaines conditions pour que ça puisse se faire. Donc l'objectif c'est de faire le lien avec cette origine.
Voilà. Alors, il faut avancer, hein, décidément, il faudra vraiment refaire une émission parce qu'on va pas du tout avoir le temps de parler de tout ce dont on avait prévu. Il y a aussi, donc, dans l'islam, semble-t-il, 6 grands articles de foi. Quels sont-ils? Est-ce que, alors, peut-être, on va commencer par vous, Père Jean-Jacques Rocher, vous allez nous dire, et puis on complétera par Amine Doumou.
À partir des piliers, donc, il y a le tawhid, c'est-à-dire, j'en ai parlé à l'instant, le monothéisme absolu, donc Dieu seul est Dieu, avec ce que ça implique au point de vue spirituel. Il faut croire donc au livre. Et alors c'est là que nous avons des interprétations un petit peu différentes, où le Coran se présente comme, enfin le Coran est présenté par la foi islamique la plus classique comme émanant d'un original céleste dont Dieu est directement l'auteur. Et donc, d'après la foi islamique, des parties de cet original céleste qui est dans le ciel auprès de Dieu, écrit par Dieu directement, des parties descendent sur les prophètes. Et le dernier livre qui descend, c'est donc le Coran, qui va confirmer ce que les révélations antérieures ont de juste à son jugement, et rectifier ce que les communautés précédentes auraient trahi. Alors ça, c'est une vision coranique, hein, que la plupart des musulmans, à laquelle la plupart des musulmans adhèrent, qui n'est pas la, la vision juive et chrétienne où le livre n'est pas pré-écrit. Il n'y a pas de livre dans le ciel, donc pour la foi chrétienne et même pour la foi juive. Donc, à partir des événements de l'histoire du peuple d'Israël biblique et de la vie du Christ, vont donc se manifester les mœurs de Dieu, la façon dont Dieu se comporte. Et à partir de là, il va y avoir des récits qui vont être ensuite mis par écrit et qui vont donner les livres donc bibliques. Donc, nous ne sommes pas dans le même contexte de révélation.
Donc ça, c'est le deuxième pilier.
Le deuxième pilier, c'est donc il faut croire au livre. Alors, il y a une petite ambiguïté, c'est-à-dire que les musulmans croient que nous croyons au livre comme eux y croient. Et ça, il faudra qu'on discute de façon sereine pour bien montrer qu'on n'a pas la même conception de l'origine du livre et ça a un certain nombre de conséquences sur la spiritualité et surtout sur le sens de l'homme qui est considéré comme apte ou pas à produire l'écriture avec l'inspiration de Dieu ou qui est censé la recevoir directement de Dieu sans avoir aucun rôle d'auteur sur le texte. Bon, ça, ce sont des discussions, nous avons quelques siècles, une fois qu'on aura cessé de faire de la polémique inutile pour discuter de ce qui est vraiment intéressant.
Ça nous ouvre des perspectives pour les émissions.
Il faut croire au prophète, dont nous avons, alors là aussi, le prophète de l'islam, Mohammed, donc va appréhender tous les prophètes à partir de sa propre expérience spirituelle, bon, ce qui est légitime, mais le prophétisme coranique ne correspond pas forcément au prophétisme biblique, qui est beaucoup plus incarné, beaucoup plus mettant en œuvre une mission historique donnée, alors que le prophète Mohammed donne souvent une mission beaucoup plus générale de rappeler le monothéisme, qui est la racine de l'humanité. Ensuite, il faut croire aux anges. Bon, il y a également les djinns, qui ne sont ni des anges ni des hommes, qui sont créés de feu. Et puis, donc, il faut croire au dernier jour, au jugement. Alors, on ajoute plus ou moins donc le la maîtrise absolue de Dieu sur toute chose, donc on peut appeler le déterminisme.
On appelle ça la prédestination,
voilà,
c'est ça.
Le rapport de Dieu à l'événement est direct. Voilà, ce qui va supposer aussi, au point de vue philosophique, un certain nombre de discussions à venir. Y a-t-il des causes secondes ou Dieu fait-il directement? Y a-t-il une nature préexistante créée par Dieu et dans laquelle Dieu ne va pas intervenir? Ou bien, au contraire, est-ce que Dieu intervient directement? Et en particulier pour fixer le début du Ramadan. A-t-on le droit de fixer le début du Ramadan à partir des tables astronomiques qui semblent dire qu'il y a des lois de la nature? Ou bien est-ce qu'il faut respecter absolument la maîtrise absolue de Dieu sur toute chose en disant il faut attendre qu'un témoin digne de foi ait vu la lune qui marque le début du mois et à ce moment-là on peut commencer le Ramadan?
Ami Demou, sur ces six piliers, est-ce que vous avez des choses à ajouter ou à préciser qui aident à comprendre la cohérence de ces six piliers?
Non, pour les comprendre peut-être pas, parce qu'il faudrait pour chacun il faudrait du temps pour en parler. Peut-être juste dire que en fait ces six articles de foi sont contenus dans le Coran. C'est-à-dire ça vient du Coran. Il y a un texte coranique, donc c'est une révélation pour les musulmans qui décrit ce que c'est que la foi. Hein, qui dit que donc justement il faut croire aux anges. Donc ce qu'il faut peut-être noter là, c'est que dans l'article de foi des musulmans s'inscrit la croyance dans tous les livres et de tous les prophètes. C'est-à-dire que tous les prophètes qui sont cités ou pas d'ailleurs dans le Coran, le musulman doit croire en eux. C'est-à-dire que cette mission de prophétie, elle existe depuis Adam. Et elle s'est perpétuée à travers les siècles jusqu'à Mohammed, prophète de l'islam, qui est considéré dans le monde musulman comme le sceau des prophètes, qui est le dernier donc. Voilà. Et voilà. Et donc c'est cette foi dans tous ces prophètes, tous ces livres, bien sûr les anges, et quelque chose qui va amener le musulman. Normalement, je dirais, avoir une ouverture vers les autres traditions, à se rapprocher de ces autres traditions. Mais bon, là, c'est une question d'interprétation aussi, de voir quelle relation on peut avoir avec le chrétien, avec
même
le juif.
Même à l'intérieur de l'islam.
D'ailleurs. Même à l'intérieur de l'islam, c'est pas, tout le monde n'a pas la même interprétation de ça.
Alors, l'émission touche presque à sa fin, ce qui prouve bien qu'il faudra en refaire d'autres. Peut-être sur le Coran. Donc, vous l'avez dit, Père Jean-Jacques Rochy, que vous n'avez pas le même rapport aux écritures que nous, chrétiens, et que les juifs. On entend, c'est pareil, souvent dire qu'en fait, les musulmans ne peuvent pas prendre de distance critique avec ce texte puisqu'il leur a été révélé. Est-ce que, de fait, vous avez une liberté quand même d'interprétation, et si oui, qu'est-ce qui le justifie puisqu'il a été révélé par Dieu? Donc, a priori, il ne faudrait pas l'interpréter.
Alors, il y a plusieurs choses. Donc, le Coran a toute une histoire au sein même de l'islam. Au sein même de l'islam, il y a des controverses, il y a eu des périodes où justement l'une des principales controverses, c'était de dire justement est-ce que le Coran est créé ou incréé. Donc ça a été à une époque un vrai débat, et selon les époques, c'est les uns ou les autres qui étaient vraiment en vue, qui avaient donc une... Quant à l'interprétation, c'est quelque chose...
C'est-à-dire selon les époques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des musulmans qui considèrent que c'est créé, d'autres que c'est incréé.
Le débat renaît.
Oui, le débat renaît.
C'est-à-dire que tous les musulmans ne croient pas que c'est une parole révélée directement
de
Dieu.
Que ce soit révélé, ça c'est une certitude.
Le Coran était dicté par Dieu d'une certaine manière.
Oui, ça c'est pour tous les musulmans, ça c'est une certitude.
D'accord.
Voilà, ça c'est, il y a pas de discussion là-dessus. Pour ce qui est de l'interprétation, c'est une pratique qui a existé depuis le début, puisque le prophète lui-même faisait de l'interprétation quand il annonçait. Les révélations, il fallait bien qu'il les explique.
Alors pourquoi on entend souvent dire ça à propos de l'islam, le fait que la distance critique avec le texte est compliquée?
Alors ça dépend ce qu'on appelle critique avec le texte. Par exemple, aujourd'hui, il y a des nouvelles sciences, il y a la linguistique, il y a la sociologie. Beaucoup de musulmans intellectuels considèrent que l'utilisation de ces sciences pour aborder le Coran en tant que texte sacré est compatible. D'autres disent non. Voilà, ça c'est une controverse. D'autres disent non. Le Coran a été interprété. On sait ce qu'il dit, on sait ce qu'il contient. Ça fait des siècles. Il y a pas la possibilité d'avoir cette. Pourquoi? Parce que effectivement, on considère que ce texte est sacré dans son origine, mais aussi dans sa forme actuelle. Et là, c'est discuté. Par contre, l'interprétation des versets eux-mêmes, c'est une pratique, c'est une science même. C'est une science qui a existé depuis le début de l'islam. Et cette interprétation amène à justement s'adapter aux époques. Parce que le texte lui-même...
C'est toute la question.
Ouais, c'est toute la question. Il y a des parties qui sont intemporelles. Quand on dit « il n'y a pas de Dieu si ce n'est Dieu », c'est intemporel. Ça ne change pas. Par contre, quand on regarde ce qui est vraiment lié à un contexte social, économique, politique, ça évolue. Donc c'est toute la question de savoir
qu'est-ce qui peut changer, comment l'interpréter.
Mais la fonction d'interpréter a toujours existé.
Père Jean-Jacques Rochy, sur cette...
Oui, effectivement, il y a toujours eu une étude du texte. D'abord, il a fallu faire le texte, compléter une écriture qui convienne pour exprimer toutes les nuances de la phonétique. Donc, il y a eu tout un immense travail, mais ce qui est un peu surprenant pour nous, c'est que c'est pas du tout le même travail que l'exégèse. Dans la mesure où il y a un auteur qui est Dieu, on ne va pas étudier les sources du texte. Et donc ça va changer complètement l'attitude par rapport au texte. Donc l'exégète de la Bible va retrouver l'influence babylonienne, l'influence égyptienne, l'influence de telle ou telle époque de la pensée grecque sur le texte biblique, telle école théologique qui va interpréter la sortie d'Égypte d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est des origines parce que, justement, le texte n'a pas une origine sacrale. Si le texte est lui-même dans son intégralité, dans sa constitution d'origine directement divine, effectivement, on va développer donc une interprétation extérieure et toute une interprétation intérieure. Si on n'a pas pu parler du chiisme avec le rôle des imams, il y a pour le chiite, il y a un Coran muet. qui est le texte, et s'il n'y a pas l'imam pour le faire parler, bien le texte est amputé d'une grande partie de lui-même. Il y a le ta'wil, le tafsir, enfin le commentaire un peu extérieur, et puis il y a toute l'interprétation avec parfois aussi des aspects ésotériques hein, qui ne sont pas alors dans le sunnisme, au moins.
Bon, voilà, enfin, l'émission touche à sa fin. Hélas, on voulait voir un petit peu justement les différents visages de l'islam aussi aux quatre coins de la planète, mais on refera une émission là-dessus. Merci beaucoup d'être venu nous aider à nous dégrossir sur l'islam, et il y a du travail quand on vous écoute. Merci beaucoup, amis de Demou. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.